France Culture.
Le journal, Olivier Vogel. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Une heure de cours sur 10 n'est pas assurée dans les collèges français. Résultat d'une enquête de la Cour des comptes en cause, le non-remplacement de certains profs absents. Explication de Julie Paco. La dermatose nodulaire contagieuse et les moyens de la combattre, l'abattage systématique comme en Ariège où plus de 200 vaches ont été euthanasiées ou alors un protocole sanitaire plus adapté pour les syndicats agricoles comme la Confédération paysanne qui appelle ce soir à des blocages dans tout le pays. Nous irons également en Turquie où la DNC avait pu être réduite au silence il y a 10 ans maintenant grâce justement à des protocoles moins radicaux. En Iran, Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, est retournée en prison à Téhéran. Elle a été arrêtée lors d'une cérémonie funéraire. Vous entendrez l'avocate de sa famille. Des diplomates, parmi lesquels le consul général de France à Jérusalem, persona non grata au centre de coordination civile et militaire géré par Israël et les USA. Nous retrouverons notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre. Et puis en fin de journal, Fawzi Trita nous plongera les oreilles dans la musique dématérialisée, les plateformes de streaming qui ont le vent en poupe et qui multiplient les innovations. Quand la Cour des comptes épingle l'éducation nationale entre 2023 et 2024, 9% des heures de cours, près d'une heure sur 10, n'ont pas été assurées dans les collèges. Pour arriver à ce résultat, la Cour des comptes, saisie par la défenseure des droits, s'est basée sur une enquête envoyée à 2500 chefs d'établissement sur les 6700 collèges publics et privés sous contrat en France métropolitaine. Julie Paco, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
En tout, ce sont 10 millions d'heures d'enseignement qui n'ont pas été assurées, essentiellement à cause d'absences non remplacées.
Oui, un chiffre en légère baisse par rapport aux deux précédentes années scolaires, mais en augmentation par rapport à l'année 2018-2019, et ce alors que les crédits consommés pour remplacement dans le public ont augmenté de 52% depuis 2018, pointe la Cour des comptes. Des heures de cours perdues en raison de vacances de poste, mais aussi d'absences non remplacées, alors que les congés maladie chez les enseignants ont augmenté 41% entre l'année 2018-2019 et l'année 2023-2024, quand les temps partiels thérapeutiques sont, eux, en hausse de 250% sur la même période. Les absences institutionnelles, celles liées aux formations ou à la mobilisation des enseignants pour des projets pédagogiques, par exemple, ne sont pas en reste, puisqu'elles représentent encore le tiers du temps d'enseignement perdu dans les collèges publics. Et le phénomène concerne davantage certaines matières, comme le français ou les mathématiques, et certains territoires, ceux en zone rurale et zone d'éducation prioritaire, où 11% des heures de cours ne sont pas pourvues, illustrant donc une véritable rupture d'égalité dans le droit à l'éducation, insiste la défenseure des droits, Claire Hédon.
Il n'est pas assuré, ce droit à l'éducation, de façon suffisamment satisfaisante. Pas de façon globale, mais de façon suffisamment satisfaisante. Et c'est toujours les populations les plus en difficulté et les plus précaires qui en payent le plus de pots cassés.
La Cour des comptes émet donc une dizaine de recommandations. La première étant de développer la collecte de données fiables sur ces heures non remplacées, de déployer un outil national aussi de gestion des remplacements. Elle préconise également de mieux prévenir les absences en renforçant la politique de prévention en matière de santé et de réduire les absences institutionnelles. Il faut enfin mieux mobiliser le vivier d'enseignants, écrit-elle, promouvoir la bivalence au collège, mais aussi remplacer la règle d'affectation nationale à l'issue des concours internes par une affectation académique, et ce, dès la rentrée 2027.
Julie Paco. IKKS, le groupe de prêt-à-porter français, a trouvé repreneur. L'offre de Santiago Cucci et Michael Benabou, le fondateur de Vipi, ex-vente privée, a été validée cet après-midi par le tribunal des activités économiques de Paris. Mais le groupe va faire une croix sur 548 emplois, soit la moitié des effectifs actuels. 119 points de vente doivent être maintenus en France. Ce sera le minimum, sans coup de pouce. Le gouvernement a annoncé qu'il revalorisera le SMIC de 1,18% au 1er janvier. De la peinture orange ce matin sur le pavé autour de l'Arc de Triomphe sur la place de l'Étoile à Paris, une action menée par plusieurs associations de défense de l'environnement, dont Greenpeace pour marquer les 10 ans de l'accord de Paris, 10 ans de sabotage climatique, pouvait-on lire sur l'une des banderoles déployées pour l'occasion au nez et à la barbe des automobilistes qui saturent cette place emblématique. La peinture utilisée pour l'action était celle aux pigments naturels qui s'efface à l'eau, ont précisé les activistes. Véronique Rebérotte, bonsoir.
Bonsoir.
L'idée de cette action coup de poing, c'était surtout de rappeler, par exemple, que la douceur des températures que nous connaissons en ce moment est l'une des nombreuses illustrations de cette inaction climatique que dénoncent les associations.
Oui, et des agriculteurs, des paysans invités à venir témoigner ce matin à Paris des méfaits des dérèglements climatiques. Florence Seban cultive des fruits et légumes dans l'Essonne.
Aujourd'hui, il fait plutôt agréable quand on se promène dans les rues de Paris. On est 3 à 4 degrés au-dessus des normales saisonnières. Donc ça peut être agréable, mais pour nous, les paysannes et les paysans, ça va amener des pertes de production très importantes. On produit des fruits et des légumes. Sur les légumes, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de froid. Et donc, on a des ravageurs comme les pucerons, les limaces qui viennent nous saccager certaines cultures. On en a plus qu'avant parce que ce froid hivernal n'existe plus. Et donc, les légumes sont attaqués par tous ces petits ravageurs. Et sur les fruits, là, c'est vraiment des pertes de production directes parce que un réchauffement hivernal fait démarrer la fructification, fait démarrer les fleurs, et donc les fleurs subissent ensuite un gel aux alentours de mars ou avril, et là on peut perdre quasiment toute la production.
Un grand classique depuis plusieurs années. Pour Léa Gendreau, coordinatrice d'Action Justice Climat, il n'y a pas de quoi se réjouir, 10 ans après l'accord de Paris, les politiques ne sont pas à la hauteur de la crise climatique, avec des réponses bien trop lentes et inefficaces. Léa Gendreau.
Cet accord qui était prometteur sur le papier, en fait, n'est pas du tout contraignant pour nos décideurs. Et aujourd'hui, on assiste à un sabotage climatique. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, avec les dirigeants et des personnes à la tête d'industries extrêmement puissantes qui, en fait, ne vont absolument pas dans le bon sens. Il y a quand même des agences très claires, comme l'Agence internationale de l'énergie, qui sont très claires sur le fait qu'il faut laisser les hydrocarbures dans le sol, que aucun nouveau projet ne peut voir le jour dans les prochaines années. Et c'est par exemple pas une recommandation que suit Total Energy. Donc au-delà du fait d'aller extrêmement lentement, il y a encore des personnes qui naviguent à contre-courant.
Le climat s'emballe à cause de la faiblesse et de l'irresponsabilité de nos décideurs politiques, déplore même Greenpeace dans un communiqué publié en ce jour anniversaire.
Véronique Rebérotte, spécialiste environnement à France Culture. Autre conséquence du bouleversement climatique, certains insectes qui ont dorénavant nettement moins de difficultés à passer l'hiver, notamment ceux qui sont en train de bouleverser le monde de l'élevage bovin, des mouches piquantes ou des taons qui se nourrissent du sang des bêtes à cornes et qui sont à l'origine de la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. En Ariège, l'abattage d'un troupeau de plus de 200 vaches a finalement démarré ce matin dans une ferme où un cas avait été détecté. Opération sous surveillance des gendarmes qui ont délogé des manifestants hier soir. Les opérations d'euthanasie menées par les services vétérinaires sont à présent terminées. Puis un nouveau foyer de DNC a été détecté dans un élevage de haute Garonne. En tout cas, la colère est vive dans le monde agricole qui réclame un changement de protocole sanitaire alors que le gouvernement considère l'abattage comme la seule solution pour sauver cette filière. Cet après-midi, la Confédération paysanne a appelé à des blocages partout en France, des blocages qui ont démarré. Ainsi, une autoroute est paralysée au sud de Toulouse par des agriculteurs qui ont installé un campement. Écoutez Thomas Gibert, le porte-parole du syndicat agricole de la Confédération paysanne.
On fait un large appel à mobilisation et à blocage sur l'ensemble du territoire. On appelle tous les paysans et les paysannes encartés ou non à rejoindre les blocages. On est en train d'instaurer un bras de fer avec la ministre, avec le gouvernement. Cette politique sanitaire, elle est totalement inefficace parce que on voit bien que la maladie continue de progresser. Nous avons notamment une étude de l'EFSA qui montre que lorsque la couverture vaccinale est atteinte, il n'y a aucune différence entre les politiques d'abattage total et l'abattage sélectif. Donc c'est la vie de milliers d'éleveurs qui est en jeu. Et clairement, il y a de la souffrance, du désespoir. On ne peut pas faire des choix froids uniquement sous le prisme économique, puisque le risque serait qu'il y ait un frein économique pendant quelques mois sur les exportations. Mais en réalité, on pourrait très bien négocier avec l'Espagne et l'Italie pour continuer les exportations de bovins le temps que la couverture vaccinale soit réalisée sur l'entièreté du territoire. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'il est clairement possible d'ouvrir la couverture vaccinale et d'avoir un abattage ciblé qui permettrait d'éviter ces drames humains.
Thomas Gibert, porte-parole du syndicat agricole, la Confédération paysanne au micro de nos confrères de France Info. Et ce protocole sanitaire moins radical et plus adapté que réclame aujourd'hui le monde agricole, c'est précisément la méthode qui avait été employée en Turquie il y a maintenant une dizaine d'années, dans des élevages d'Anatolie notamment, et la méthode avait porté ses fruits. C'est une correspondance d'Anne Anglower en Turquie.
Entre 2014 et 2016, la Turquie a été durement touchée par la dermatose nodulaire contagieuse, avec plus de 1500 foyers déclarés pendant ces trois années à travers l'Anatolie. Pour endiguer l'épizootie, les autorités d'Ankara ont mis en place une stratégie hybride. L'euthanasie systématique des animaux malades, couplée à des mesures de stricte quarantaine et à des campagnes massives de vaccination. Pas d'abattage de troupeaux entiers donc, contrairement à la méthode qui prévaut actuellement en France. Les quarantaines en revanche ont concerné ces années-là des centaines de milliers de bêtes en Anatolie, puisqu'un cas dépisté suffisait à ordonner l'isolement de tous les bovins du département. Dans un rapport publié en 2023, le ministère turc de l'Agriculture estime que la méthode a porté ses fruits. Le nombre de foyers dépistés a diminué d'un tiers entre 2014 et 2015, puis de moitié l'année suivante. Ces sept dernières années, le pays n'a pas affronté de résurgence notable de la maladie. Les campagnes de vaccination contre la dermatose ont continué, souvent associées à celles contre la fièvre aphteuse, qui a fait des ravages ces derniers mois dans les troupeaux turcs.
Anne Anglower, la correspondante de France Culture en Turquie. Retour en France avec une perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, soit la peine maximale. Ce sont les réquisitions des avocats généraux cet après-midi devant les assises du Doubs à l'encontre de Frédéric Péchier, le médecin anesthésiste. Il est jugé pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. Jean-Philippe Deniaud, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
En direct de la cour d'assises de Besançon, l'accusation avait décrit Frédéric Péchier, qui clame son innocence, comme l'un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française.
Oui, et les deux avocats généraux ont utilisé 13 heures de micro, 13 heures de réquisitoire pour une démonstration de culpabilité indiscutable, disent-elles, qui n'auront pas la moindre indulgence, demande-t-elle au juré, pour ce criminel qui s'est servi de la médecine pour tuer. Et avant de demander donc à ces jurés de ne pas douter, parce qu'il n'y a pas le moindre doute raisonnable pour ce docteur Lamort qui a fait des cliniques de Besançon, des cimetières. Vous avez utilisé les molécules de la vie pour en faire du poison, accusent les magistrates en regardant Frédéric Péchier droit dans les yeux. Puis elles récitent l'interminable liste de l'horreur, disent-elles, qui résonne dans l'immense salle d'audience, les noms et prénoms des victimes froidement assassinées et de celles qui ont miraculeusement pu être sauvées. Le temps de l'impunité est terminée, monsieur Péchier, poursuivent-elle. Vous n'êtes pas un anesthésiste, mais un criminel hautement pervers qui avait tiré au sort les victimes dans votre loterie cynique de la mort et avait condamné les familles à une perpétuité de larmes, enfin, contre cet homme clivé qui ne pourrait pas avouer sans risquer l'effondrement psychique. Les avocats généraux réclament donc la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, la peine maximale encourue.
Et le verdict doit être rendu le 19 décembre. L'Iranienne Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, est retournée en prison cet après-midi à Téhéran. C'est son comité de soutien qui l'a annoncé en début d'après-midi. La militante des droits de l'homme a été arrêtée alors qu'elle participait à une cérémonie funéraire en hommage à un avocat décédé la semaine dernière dans des conditions suspectes, condamné et emprisonné à de multiples reprises pour son engagement contre le port du voile obligatoire et contre la peine de mort. Narges Mohammadi était en liberté provisoire depuis plusieurs mois. Valérie Crova a joint Kirin Ardakani, l'avocate de la famille de Narges Mohammadi.
Narges Mohammadi se trouvait à Mashhad avec des militants des droits humains pour prendre la parole et dénoncer la mort suspecte d'un avocat et défenseur iranien, Khosrow Ali Khordi, et qui a été retrouvé sans vie le 6 décembre dernier, dans son cabinet de Mashhad. Elle avait obtenu le bénéfice d'une permission de sortie temporaire, initialement de 3 semaines en novembre 2024, après avoir été opérée d'une tumeur grave à la jambe. Cette permission médicale s'était prolongée en dehors de tout cadre légal. Narges Mohammadi avait été priée il y a quelques mois de se présenter d'elle-même aux autorités en vue d'une réincarcération. Elle doit encore purger un quantum de peine de 12 ans d'emprisonnement, ce qu'elle a évidemment refusé, indiquant qu'elle était innocente de toutes les charges fallacieuses dont elle était accusée. Mais finalement, le couperet a fini par s'abattre, puisqu'elle a été arrêtée ce matin.
En Israël, des dizaines de diplomates européens n'ont plus accès au centre de coordination civile et militaire géré par les Américains et les Israéliens de Kiryat Gat. Ce centre a été ouvert il y a presque 2 mois pour mettre en place le plan de Donald Trump pour la paix à Gaza. Et parmi ces diplomates persona non grata, il y a le consul général de France à Jérusalem, Thibault Lefèvre.
Et il n'est pas le seul. La Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne notamment n'ont plus le droit d'envoyer leur chef de mission au centre de coordination. Les diplomates de rang inférieur ont en revanche toujours la possibilité de participer au groupe de travail sur place et donc contribuer à la mise en place de la deuxième phase du plan Trump. Les consuls, qui ont pour certains, comme le représentant français, le statut d'ambassadeur, ont reçu il y a quelques jours une notification écrite des autorités américaines. Selon le journal israélien Haaretz, les États-Unis ont agi sous la pression des autorités de l'État hébreu. Ce qui interpelle, c'est que les chancelleries concernées travaillent tout avec l'autorité palestinienne et défendent la solution à 2 États, une idée que rejette catégoriquement le gouvernement israélien. Il n'y a par ailleurs aucun représentant palestinien au centre de coordination civile et militaire, pourtant censé déterminer l'avenir de 2 millions de Gazaouis. À l'unisson, les diplomates européens contactés regrettent une décision qui prive, disent-ils, les Américains et les Israéliens d'une expertise qui pourrait pourtant leur être utile.
Thibault Lefèvre à Jérusalem. L'Allemagne a convoqué l'ambassadeur russe à Berlin après une attaque informatique qui a visé le système de contrôle et de trafic aérien. L'ambassadeur devra aussi s'expliquer sur une campagne de déstabilisation pendant les dernières législatives en Allemagne que Berlin attribue, là encore, à la Russie. Il est 18h17 sur France Culture et on termine ce journal en musique numérisée, dématérialisée, pas toujours bien rémunérée pour les artistes. On parle des plateformes Spotify, Deezer, Apple Music, pour n'en citer que quelques-unes. Bonsoir Faouzi Trita.
Bonsoir.
Ces plateformes de streaming musical qui ne se contentent pas d'être des robinets à musique, mais multiplient désormais les innovations à un rythme effréné pour se développer, gagner des parts de marché et capter toujours davantage l'attention des utilisateurs.
Et actuellement, l'innovation la plus connue est à l'œuvre. Les applications proposent le bilan musical de l'année. Les titres que l'on écoute le plus en France, c'est celle-ci.
Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne.
Voilà, c'est Ciel de Gims. De son côté, Spotify, le leader du marché mondial, propose aussi cette année l'âge d'écoute selon les goûts musicaux. Résultat, 200 millions d'utilisateurs ont consulté les bilans, générant 500 millions de partages sur les réseaux sociaux. Alors, des nouveautés, il y en a eu énormément ces dernières années. L'intégration de podcasts, de livres audio, l'expérience musicale aussi a été améliorée avec le mode lossless. C'est une écoute sans perte de qualité. Une offre pléthorique pour attirer toujours plus d'abonnés. Selon Géraldine Igou, c'est la directrice de la communication de Spotify en Europe.
La diversification de notre offre, ça permet de ramener de nouveaux utilisateurs sur Spotify. Et donc, avoir une proposition libre audio, par exemple, c'est l'opportunité de ramener des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser une plateforme de streaming et de découvrir un nouvel univers. Et on l'espère, via la découverte de livres audio, les ramener sur le podcast et ensuite sur la musique.
Il y a encore beaucoup d'abonnés à conquérir. 40% de la musique en France s'écoute en ligne. Le reste, c'est en vinyle, en CD ou à la radio. Alors que dans d'autres pays, le streaming dépasse 50%. C'est même 84% aux États-Unis.
Il faut dire que Deezer, le concurrent, mise beaucoup sur la création d'une communauté de fans.
Oui, récemment, la stratégie a été repensée, à commencer par le slogan.
Live the music, qui peut se lire dans 2 sens, soit live en vivant la musique soi-même et live avec des événements qu'on propose aussi pour nos utilisateurs. Si on veut rester ici et être toujours en France dans 10 ans, dans 20 ans, il faut qu'on garde une connexion émotionnelle avec nos utilisateurs.
Et pour garder cette connexion émotionnelle, Maria Garrido, la directrice marketing de Deezer, multiplie les innovations. Une interface personnalisable, des concerts privés pour les abonnés, des karaokés. Le but, créer une communauté de fans qui va se retrouver sur Deezer.
que ça soit Netflix, Deezer ou TikTok, on a un temps limité d'attention. Aujourd'hui, les gens, le temps qui passe sur TikTok, c'est du temps qui passe pas sur Netflix. Les temps qui passent sur Netflix, c'est du temps qui passe pas sur Apple Music. Et cette espèce de concurrence pour notre attention est aujourd'hui un grand défi pour les plateformes de streaming.
Résultat, au niveau mondial, pour la première fois l'an passé, Deezer a gagné 7 millions d'euros de plus qu'il n'en a dépensé après des années de pertes.
Mais au bout de la chaîne, Faouzi, les artistes s'interrogent.
Oui, puisque Spotify, le numéro 1 mondial, a généré 1,14 milliard d'euros de bénéfices, là aussi pour la première fois de son histoire l'an passé. Mais quid de la rémunération des artistes ? Suzanne Combeau, la déléguée générale de la gamme qui défend les intérêts des chanteurs et des chanteuses auprès de l'industrie musicale, s'interroge.
À qui profite le stream ? On sent que ça a toujours beaucoup profité aux majors du disque, que ça commence à profiter aux plateformes, mais ça peine à profiter à la grande majorité des artistes. Et on n'a toujours pas un modèle satisfaisant économiquement pour qu'une classe moyenne des artistes puisse survivre. Les artistes sont toujours un peu la dernière roue du carrosse.
Et dans les prochains mois, le syndicat espère de nouvelles négociations pour une meilleure rémunération des artistes.
Faouzi Trita, merci. Une fin de semaine calme et douce, c'est le programme que prévoit Météo France. Les températures seront au-dessus des normales saisonnières de 7 à 9 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci à l'Agdar Olivier Benmalek qui l'a réalisé et à Grégory Wallon qui était à la technique.